Vous écoutez
RMC.
Jeudi 28 mai,
l'info sur RMC.
Il est presque 6h. Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Stop Covid, l'Assemblée nationale et le Sénat donnent leur feu vert au déploiement de l'application, une application française de suivi de contact contre le Covid-19. Son allocution sera sans doute très suivie. À 17h, Édouard Philippe va annoncer la couleur avec les précisions de la phase 2 du déconfinement, réouverture des bars et restaurants, les vacances d'été. À quoi vont-elles ressembler? Dans ce journal, les premières piste avec Paul Barcelone. Et puis le premier vol de la capsule spatiale de SpaceX reporté 17 minutes avant le décollage, un report à cause du mauvais temps. Bienvenue à tous sur RMC. L'Assemblée nationale a donc voté pour le déploiement de l'application Stop Covid. 338 voix pour, 215 contre. L'outil de traçage numérique est censé aider à lutter contre l'épidémie. Un peu plus tard dans la soirée, le Sénat a lui aussi donné son feu vert. À l'Assemblée, Romain Cluzel, on a assisté tout de même à une passe d'armes symbolique.
La principale crainte dans l'opposition, c'est la protection des libertés individuelles. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, juge l'application Stop Covid dangereuse et liberticide.
Je fais partie de ceux qui ne veulent pas qu'on sache près de qui j'étais à moins d'un mètre pendant plus d'un quart d'heure. Un quart d'heure et moins d'un mètre, c'est le temps d'un baiser et de bien d'autres applications. Je ne veux pas, ça ne vous regarde pas.
Réponse du ministre de la Santé, Olivier Véran.
Je considère qu'empêcher quelqu'un de se doter d'un outil qui permet de se protéger, ça c'est sans doute liberticide. Je veux avoir la liberté demain de télécharger ou de ne pas télécharger une application pour pouvoir me protéger. Je veux avoir la liberté de choisir dans une semaine de l'enlever si je n'en veux plus.
Mais les doutes sont nombreux au sein de l'opposition. Pour Damien Abad, député Les Républicains, Stop Covid, c'est trop peu, trop tard.
Ce sont les masques dont nous avons tant manqué qui sauvent les vies. Ce sont les tests qui ont fait si cruellement défaut pendant le confinement qui sauve les vies. Vous avez préféré agiter un écran de fumée avec cette application pour mieux masquer vos propres fautes.
L'efficacité de Stop Covid est aussi remise en question, même au sein de la majorité. Un député cite des médecins autrichiens pour qui l'application déployée dans le pays ne sert à rien.
2 juin, deuxième phase du déconfinement. Les contours, on les connaîtra en fin de journée. Le Premier ministre va prendre la parole depuis Matignon à l'issue du Conseil de défense qui a débuté hier. Alors, tout n'est pas encore figé. Mais ce que l'on sait déjà, Paul Barcelone, c'est que la carte de France du déconfinement ne sera pas entièrement verte.
Il restera plusieurs zones rouges, notamment certains départements en Île-de-France. Pour le gouvernement, pas question d'envoyer le signal que les vannes sont ouvertes, mais en même temps, il faut continuer le déconfinement étape par étape alors que les indicateurs sanitaires sont toujours plus encourageants. Ce sont d'ailleurs ces indicateurs qui vont justifier les annonces d'Édouard Philippe tout à l'heure. Le Premier ministre devrait confirmer la réouverture des bars, cafés, restaurants dès le 2 juin. Mardi donc, avec un mètre de distance entre chaque client, reste à savoir si cela concernera tout le pays. Réouverture aussi pour tous les parcs et jardins, y compris en Île-de-France. Autre piste, la reprise des spectacles et pièces de théâtre, potentiellement dès le mois de juin, avant celle des cinémas début juillet. Enfin, le gouvernement planche sur une rentrée dans les lycées professionnels, mais envisage d'annuler l'oral du bac de français.
Annuler l'oral du bac de français. C'est donc une piste envisagée pour les lycéens que nous avons rencontrés. Pas de doute, ils préfèrent cette option au maintien de l'épreuve. Reportage de Martin Bourdin et Mao Bécard-Granier.
Pas facile d'être aussi efficace à la maison qu'au lycée. César, élève de première, n'a pas encore pu réviser tous les textes de son programme.
Il me manque des coches de Montaigne, aussi un texte de Madame de Lafayette.
Et encore, il n'y en a plus que 15 sur les 24 prévus au départ. Ce qui inquiète le plus sa camarade Clémence, 16 ans, c'est l'incertitude qui plane autour de cet oral.
On a complètement perdu le rythme. Remettre un réveil pour travailler, etc., c'est vraiment beaucoup plus compliqué dans cette situation, surtout qu'on ne sait même pas s'il a lieu.
Des élèves dans le doute, mais aussi livrés à eux-mêmes durant cette période où les lycées sont toujours fermés.
Je suis moins efficace, c'est clair. Parce que déjà, en fait, on n'a pas les profs faits pour nous conseiller. On ne peut pas avoir une discussion directe avec eux, en fait.
Même inquiétude dans le corps professoral. Loïs Bonneau enseigne les lettres au lycée Chaptal à Paris. Même s'il met en place des oraux à distance, difficile pour lui de juger si ses élèves sont prêts.
Je fais de la révision avec eux, mais à vrai dire, je ne peux pas être vraiment sûr qu'ils révisent. Je ne suis pas derrière eux. C'est difficile pour moi de savoir dans quelle mesure ils s'investissent sérieusement dans les révisions. Ils sont tétanisés, mais ça les empêche un peu de travailler. Ils ne savent pas dans quelle mesure il faut vraiment s'y mettre.
Si l'oral de français n'a pas lieu, c'est la note du contrôle continu à l'écrit qui comptera pour le baccalauréat.
Air France annonce la réduction de 40% de sa capacité sur ses vols en France d'ici à 2021. Plusieurs destinations pourraient être supprimées. Les lignes qui relient Orly à Bordeaux, Nantes et Lyon pourraient ainsi être concernées. Air France devrait toutefois conserver la navette qui dessert Nice, Marseille et Toulouse au départ de l'aéroport d'Orly. Ces réductions de capacité doivent permettre à la compagnie de réduire de 50% les émissions de CO2. La courbe de la pandémie continue de s'accélérer au Brésil qui a franchi deux seuils symboliques hier. Plus de 25 000 morts et 400 000 cas confirmés. C'est de loin le pays le plus touché d'Amérique latine. Les États-Unis, eux, ont franchi le cap des 100 000 morts du Covid-19, un bilan nettement supérieur à tous les autres pays du monde. Dans le pays où les rassemblements se multiplient après la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, des manifestants s'en sont pris à des voitures de police, brisant les vitres arrière. Ça s'est passé à Los Angeles. George Floyd est décédé après une arrestation brutale dont la vidéo est devenue virale. Sa famille demande à ce que les policiers impliqués soient inculpés pour meurtre. Pour l'instant, ils ont juste été limogés. RMC, 6h05, 4 morts, un blessé. Bilan hier d'une tuerie dans une usine située à Saint-Varan dans les Deux-Sèvres. Un homme a ouvert le feu en plein après-midi lors d'une réunion de la direction. Il a tué donc 3 personnes et a retourné l'arme contre lui. Les précisions de Margot Bourdin.
L'homme est entré calmement, explique les témoins, et a rapidement sorti son arme de poing, un pistolet 9 mm. Le tueur pratiquait le tir sportif et a tué 3 personnes, des personnes qu'il souhaitait abattre, explique un témoin. Il s'agit d'un responsable financier, d'un représentant syndical et d'un représentant du personnel. Une 4e personne est blessée. L'assaillant a ensuite retourné l'arme contre lui, s'est tiré une balle dans la tête. Gravement blessé, il a été transféré au CHU de Poitiers où il a succombé à ses blessures. Alors, quelle motivation ? Pour l'instant, aucune certitude, mais l'homme venait d'être déclaré inapte au travail. Plus aucun poste ne pouvait lui convenir dans ses carrières. Célibataire, il habitait seul avec son père à 70 km de là, à Cholet, et avait perdu sa mère il y a une dizaine de mois.
Une enquête de flagrance pour homicide a été ouverte par le parquet de Niort. Le compte à rebours a été interrompu 17 minutes avant le décollage. 2 astronautes de la NASA devaient partir pour la Station Spatiale Internationale, mais finalement, donc, le premier vol de la capsule spatiale de SpaceX a été reporté à cause du mauvais temps. Pas question de prendre le moindre risque, explique Philippe Enarejos. Il est rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace.
La météo est très importante pour les lancements spatiaux. S'il y a des vents latéraux ou des perturbations importantes, ça peut vraiment avoir des conséquences dramatiques pour le vol. Donc il faut prendre aucun risque. Et surtout, il y avait une autre contrainte qui était celle d'avoir une bonne météo sur les zones éventuelles où les astronautes pouvaient revenir en urgence en cas de problème technique à bord. Si la capsule devait s'éjecter du lanceur en cas de problème, elle allait retomber en gros au milieu d'une tempête, donc ça c'était pas bon.
Et le vol est donc reporté à samedi soir. Donald Trump était venu assister en personne à ce décollage. Donald Trump qui entre en guerre contre les réseaux sociaux. Il va signer aujourd'hui un décret dont on ignore la teneur, mais le chef de la Maison-Blanche pourrait concrétiser sa menace de fermer les entreprises privées, dont Twitter. Twitter qui a signalé 2 messages mensongers du président américain. Et ce dernier n'a pas supporté, ouais, visiblement.
Et j'en parlerai avec Nicolas Poincaré tout à l'heure à 8h10. Merci Céline, on vous retrouve tout à l'heure. À 7h, va-t-il en parler ? Mais va-t-il parler de son excès de vitesse ? Oui ou non ? Ben oui, je vais en parler. Et je vais en parler librement. Et je vais en parler franchement et honnêtement. Et d'ailleurs, je vais prendre Gilles, qui est dans l'Isère. Bonjour Gilles.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à toute l'équipe.
Ça va Gilles, vous êtes conducteur routier, mon cher Gilles. Des millions de kilomètres, un peu comme moi. Hein.
Ouais, voilà, bien sûr. Ouais. Moi, ça fait 35 ans que je fais la route.
Moi, j'ai commencé comme commercial à 100 000 par an, quoi.
Ben, Jean-Jacques, moi, quand j'étais gamin, je partais avec mon vieux en camion, j'écoutais Max. C'est simple.
Ah ben moi. Vous savez que j'ai des souvenirs extraordinaires avec Max Meynier.
Ah ouais, avec Max Meynier. J'étais gamin, hein, franchement,
Oui. J'imagine.
Je me souviens toujours. Oui. De qui à la courroie, de ci, de quoi, de qu'est-ce. Parfois, c'était épique, c'était rigolo.
Ah oui.
Voilà.
Moi, mais il était il avait une popularité, Max Meynier, incroyable. Incroyable.
Ouais. On l'aimait tous parce que ça représentait ce que c'est la route, la solidarité à l'époque et voilà quoi. Donc voilà.
Bon. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Dites-moi.
Donc Jean-Jacques, oui. Moi je vous prends avec ma moto quand vous voulez.
Oui, c'est-à-dire.
Je suis un peu comme ça, mais. Bon, ça va, les redresseurs de tort, c'est bon, quoi. Ça arrive à tout le monde de faire un excès de vitesse. Ça arrive à tout le monde. Donc, voilà.
Après, non, mais bon, je roulais trop vite, j'en suis parfaitement conscient. Et j'étais... Alors, et... je voudrais quand même préciser, parce qu'il a été dit tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais comme d'habitude, je voudrais préciser quelques choses. D'abord, l'autoroute était absolument vide à l'horizon, il n'y avait pas une voiture. En pleine ligne droite, le temps magnifique, je voudrais le préciser. Donc, je ne risquais que pour moi, j'étais seul dans ma voiture, et évidemment.
Et le paysage du col d'Angarès et compagnie qui défile. C'est magnifique. Ouais,
c'est absolument magnifique. Excès de vitesse, donc. Excès de vitesse, oui. Interdiction de déplacement, non. Parce que j'en avais deux. Mais... une professionnelle et une personnelle. Mais je ne vais pas m'étendre sur mon autorisation personnelle parce que ça, ça me concerne.
Et,
je ne, et ma vie privée n'intéresse et ne doit intéresser absolument personne.
D'accord. Mais, vous savez... oui. Parce que je dis souvent, c'est les mêmes qui bougeront pas une oreille quand sa voisine se fait défoncer par un mari violent, quoi.
Ah, ça
m'énerve. Je n'aime pas ce type d'individu. Je les considère comme dangereux. C'est clair, quoi. Le mec qui vocifère dans votre dos ou qui a trouvé un petit moment s'arranger. Moi, sincèrement, je suis pas tendre avec vous, des fois.
Je sais, Gilles.
Je suis pas du genre à faire semblant. Je suis quelqu'un de cash. Mais ces gens-là me font peur parce qu'ils sont faux. Je déteste ça. J'ai horreur de ça. C'est comme les gens qui sont tombés sur tout à l'heure est tombé sur Monsieur Bigard. Monsieur Bigard, il veut tenter sa chance. Il tente sa chance. Il a dit les choses que tout le monde pensait tout bas. Seulement quand ça chie, il y a personne dans le maquis, voyez-vous. Donc tout le monde se ferme. Par contre, pour vociférer et vituperer dans le dos des gens pour dire, voyez, ah moi je suis un bon, mais lui c'est un mauvais. C'est moi j'appelle ça des coprophages. Pardon, je vous dirai pas le terme populaire.
Je
déteste ces gens-là. J'ai horreur de ça. Après, la règle des 100 km, moi, franchement, je suis passé en mode free. C'est-à-dire que... qu'est-ce qui... comment vous dire ? Ça offusque personne que le conseil scientifique, il y ait des gens payés par les labos. Par contre, ça, pour baver sur les gens, très, très fort. Très, très fort.
Donc, Gilles, voilà, merci.
Donc, je vous défends. Des fois, je suis pas d'accord avec vous. Je vous ai même envoyé des messages. C'est
n'importe quoi. Je sais, Gilles.
Au moins, avec moi,
il y a pour ça que je vous ai mis à l'antenne, hein, parce que vous n'êtes pas tendre parfois. Bon, merci, Gilles.
Voilà. Bonne journée à tout le monde.
Et merci d'être avec nous le matin sur RMC et sur RMC Découverte. Évidemment, vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs. Il est 6h12. Merci. Alors, les tests massifs des Français au Covid-19. Hein? Parce que des premiers chiffres pour évaluer le nombre de Français testés et le taux de test doivent être dévoilés aujourd'hui par Santé publique France. J'en parlerai avec le professeur Karine Lacombe tout à l'heure. Les autorités sont confrontées à un problème. Les dépistages restent un acte volontaire. Mais un acte volontaire, il faut avoir une ordonnance pour aller se faire dépister. Il faut aller au-devant des gens pour les inciter aussi à se faire tester. Hier, à Saint-Denis, des médecins ont gratuitement effectué des tests PCR. Ce sont donc les médecins qui sont allés au-devant de patients. Tests PCR, des cotons-tiges, sur une place proche de la mairie. Toute la journée, ça a duré. De très nombreuses personnes se sont assemblées et ont attendu plusieurs heures pour passer ces tests. Reportage Maxime Brandstatter et Marie Monnier.
Sous un soleil de plomb, sur une place proche de la mairie, la file d'attente est interminable. 25 à 30 personnes sont testées toutes les heures.
Je peux passer, là ?
C'est bientôt au tour d'Eli, 68 ans.
Ça fait 4 heures que j'attends pour faire le test du Covid.
Ce retraité n'a aucun symptôme, mais ce dépistage gratuit l'a incité à venir pour protéger son entourage.
Parce que j'ai ma petite fille de 2 ans et demi. On va la garder au mois de juin. Alors, je ne sais pas s'il y a un risque.
Derrière lui, Atouma est plus inquiète, même si elle a respecté à la lettre les mesures de sécurité sanitaire.
En fait, c'est surtout pour me rassurer.
Car cette jeune mère de famille est atteinte d'une maladie pulmonaire chronique.
Ça permet de lever un doute, au lieu de rester tout seul chez soi et se demander si on l'a contracté ou pas.
Sous un chapiteau, il y a Pierre, étudiant en médecine. Sur blouse, masque, lunettes de protection, il effectue les tests PCR.
On appelle ça un écouvillon. Mais du coup, c'est un grand coton-tige, en fait. Et du coup, on va aller au fond du nez, d'accord, pour récupérer un petit peu de sécrétion qu'on va analyser derrière.
Donc vous n'êtes pas trop stressé, je ne stresse pas trop.
Voilà, je retire.
Bah, du coup, je vais attendre les résultats avec impatience.
Pour Pierre, qui dépiste depuis un mois les populations à risque, cet élargissement au grand public est essentiel.
Comme maintenant, on était surtout attribué dans des endroits à risque, que ce soit EHPAD, des maisons médicalisées. C'est depuis peu de temps qu'on nous attribue des missions ouvertes à tous. Ce genre de test est très important, notamment pour prévenir l'apparition de nouveaux foyers, pour essayer de contrôler une potentielle seconde vague.
Dans ce département très touché par l'épidémie, les résultats des tests et la proportion de cas positifs sont très attendus par les autorités.
Il est 6h14. Merci d'être avec nous le matin. Vous réagissez 3216 rmc.fr. Il y a beaucoup de sujets. Ce déconfinement, qu'est-ce que vous attendez là pour la suite, la phase 2? Édouard Philippe va tout nous dire cet après-midi. Karine Lacombe, ne ratez pas notre invitée tout à l'heure, le professeur Karine Lacombe, parce que elle va nous dire où on en est. Et précisément de l'épidémie. Bien, nous allons rejoindre, puisqu'on parle d'épidémie, nous allons rejoindre la Chine, avant de parler du reste du monde. Mais d'abord la Chine, avec notre ami, notre auditeur, téléspectateur habituel en Chine, envoyé spécial, tout ce qu'on veut, Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Jean-Jacques. Bonjour toute votre équipe, bonjour à toute la France.
Comment va la Chine ?
Beaucoup mieux, ça se bat beaucoup mieux. Tous les enfants ont repris l'école. Non, ça va, tout se passe bien. On sort toujours avec le masque, mais c'est nickel.
Oui, alors,
du soleil.
Vous sortez avec le masque plus qu'avant ou comme avant ?
Comme avant, surtout dans les lieux publics, centres commerciaux, métro, dans la rue, on se tolère quelques libertés, on l'enlève un peu pour marcher, mais métro, centres commerciaux, toujours masques et restaurants aussi.
Et dans les restaurants aussi, tous les restaurants sont ouverts.
Tous les restaurants sont ouverts, ceux qui ont pu réouvrir. Il y en a beaucoup qui sont restés fermés, malheureusement, comme des petits commerces aussi qui n'ont jamais réouvert. Mais bon, voilà, c'est les dégâts de la crise.
Oui, il y a des dégâts, vous constatez, il y a vraiment des dégâts économiques sérieux.
Ouais. Surtout, je pense, beaucoup de petits commerçants, beaucoup de petits, ceux qui n'avaient pas les reins solides, ou tout simplement ceux qui ont fait le choix de ne pas réouvrir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a beaucoup qui sont dans les grandes villes, comme chez nous à Nankin, mais qui habitent dans d'autres provinces et qui ont fait le choix de ne pas revenir.
Jean-Pierre, quand on va au restaurant, quelles sont les conditions de sécurité sanitaire à observer ?
Tous les serveurs sont masqués, tous les cuisiniers sont masqués. Nous, on arrive avec le masque, on l'enlève pour manger, et voilà, on n'a pas de, il y a une distance entre les tables, mais ça, c'est assez courant. Voilà, on mange tout. Voilà, on est à 3, à 4, à 6 maxi. Quand c'est des grandes tables, il faut réserver. Alors qu'avant, il n'y avait pas de réservation. Voilà, c'est juste ce genre de petites choses. On peut louer des salles privées si on veut rester entre nous.
Oui.
C'est un peu plus strict qu'avant.
Un peu plus strict qu'avant. Et le reste de la vie quotidienne.
L'économie est repartie. Alors, il y en a qui. On peut aller dans les grandes surfaces, mais moi, j'ai fait le choix de privilégier les marchés. C'est plus sympa. On a redécouvert les petits commerçants, les petits artisans, des légumes frais. Comme on a beaucoup cuisiné pendant le confinement, on continue. Donc les légumes frais, les légumes de saison, les fruits, beaucoup de fruits. Nous là, c'est la période, il commence à faire très chaud. Ça. On est en été depuis plus d'un mois, donc voilà.
Est-ce que la télévision parle encore beaucoup du coronavirus ?
On parle surtout de ce qui se passe à l'étranger par rapport à cette crise, toutes les polémiques qui sont créées par rapport à la Chine, enfin cette guerre, on va dire cette guerre des médias. Entre ce qu'il faut faire, ce qui aurait dû être fait, mais bon, c'est toujours facile de donner des leçons à la fin. Donc, peut-être que la Chine n'a pas géré au mieux, comme tous les pays. Je pense qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Ils ont géré comme ils ont pu. Ils ont fait au plus pressé. Et puis, comme tous les gouvernements sont en train de faire.
Jean-Pierre, oui, vous avez raison de relativiser, hein, comme tous les gouvernements. Les États-Unis, est-ce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis dans la population, ou est-ce que ça passe au-dessus de la tête de la population ?
Vous savez, ici, le plus important, c'est de trouver du boulot pour le lendemain, de faire du business, de gagner de l'argent. Après, la guerre commerciale, elle n'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait plus de 2 ans qu'il y a une guerre avec les États-Unis. Donc c'est pas d'aujourd'hui la guerre avec les États-Unis. Après, bien sûr, Trump ici est beaucoup détesté parce que les Chinois sont très patriotes. Donc Trump est très détesté, pas les États-Unis en eux-mêmes, hein, mais Trump est très détesté, oui.
Oui, très détesté. Merci Jean-Pierre, saluez toute la famille. Et dès que vous venez en France, à Paris, vous n'hésitez pas. Merci. Vous venez nous voir.
Merci à vous Jean-Jacques.
Hein, Jean-Pierre.
Je viens vous voir dès que je suis à Paris.
Bon.
Et puis j'aimerais bien un peu plus de solidarité en France, parce que quand je vois ce qui se passe dans notre football, j'ai tellement honte d'être français quand je vois ce qui se passe avec nos présidents de football.
Ah,
c'est juste catastrophique.
Ah, bah,
c'est incroyable.
Ah, ça, je suis tellement d'accord. Alors là, vous direz, je suis tellement d'accord. Mais enfin, bon. Merci Jean-Pierre.
Pathétique.
Merci Jean-Pierre. Bonne journée, merci. C'est la une de la Croix.
Absolument.
Aujourd'hui, la Chine, les États-Unis, montrez la une.
États-Unis, la rivalité s'exacerbe. Exactement, c'est la une du journal La Croix avec des articles à l'intérieur. On parle notamment de possibles nouvelles guerres froides entre ces deux pays, Chine et États-Unis. Et un article intéressant sur le quartier chinois de New York à Manhattan, Chinatown, où le virus du racisme fait peur, dit-on, les propos anti-chinois de Donald Trump qui inquiètent les Asiatiques aux États-Unis avec une hausse des incidents.
Bien, nous allons prendre Philippe dans un instant sur la réouverture des restaurants dans toute la France. Il est déjà 6h20, vous êtes sur RMC, RMC Découverte. Mathieu, vous avez beaucoup de messages.
Oui, je vais vous les lire dans un instant.
Ben, allez, à tout de suite.
RMC, Bourg en direct.
Beaucoup de messages et vous savez qu'on adore ça pour nous dire bonjour, tout simplement. Jérôme, bonjour de Clermont-Ferrand, bonjour à toute l'équipe, aux auditeurs et surtout courage à ses clients boulangers. Balade nous dit aussi, c'est mon émission préférée, j'adore, j'écoute tous les matins avant de commencer le boulot. Abdelkarim est là aussi. Xav nous dit, vous êtes la meilleure radio de France, ça n'arrête pas ce matin. Monique nous dit bonjour aussi. Jean-Jacques nous dit que c'est un plaisir de nous entendre tous les matins. Françoise, si fidèle à Pécancourt. Et vous, qu'attendez-vous de cette deuxième phase de déconfinement? Là aussi, j'ai plein de messages. Christine, qui est dans le Jura, qui dit tout simplement que mon département repasse au vert. Tous les signaux sont positifs chez nous. On dépend de Dijon, de Besançon, etc. Mais croisons les doigts, j'espère repasser en vert. Nathalie, qu'est-ce que j'aimerais voir rouvrir en premier? C'est très égoïste, nous écrit Nathalie. Mais c'est tout simplement mon centre aquatique et de fitness. D'ailleurs, on a des reportages dans les journaux d'RMC ce matin. Vous n'êtes pas la seule, Nathalie, à attendre cette réouverture des salles de sport. Les restaurants aussi, nous dit Nathalie. Et puis elle nous dit, je n'ose dire que j'attends aussi avec impatience le retour de la Ligue 1 avec du public. Ça me manque tout tellement ces soupapes de décompression. Et vous, qu'attendez-vous de cette deuxième phase de déconfinement? Vous nous dites ce matin, le 3216, l'appli direct studio et le Facebook Bourdin Direct pour nous rejoindre.
RMC au 3216.
45 centimes la minute.
RMC, 6h-9h.
Bourdin Direct.
Allez, il est 6h24. Nous faisions quelques réflexions. Charles nous disait quoi? Que depuis qu'on a passé les 25 degrés, le masque est un peu disparu. Bah,
bizarrement, on les a réclamés pendant plusieurs mois. Et maintenant, depuis qu'il fait chaud, le masque se porte sous le menton.
Et puis Quentin, vous vouliez dire qu'il y a les extrêmes aujourd'hui qui s'expriment.
Oui, non, mais c'est marrant. Non, c'est pas marrant. Mais quand on constate dans les files d'attente, il y a ceux qui ont très peur, qui sont inquiets du virus, qui veulent absolument respecter le mètre, voire plus de distance. Et puis ceux qui s'en fiche un petit peu, qui relâche un petit peu la pression. Et donc, ça donne parfois des petites disputes. Oui.
Des petites disputes. Et vous, Mathieu?
Mais j'ai eu cette expérience hier à la boulangerie. Quelqu'un qui voulait qu'on s'écarte, mais de 4 ou de 5 mètres et de lui faire passage. Enfin bon, c'est compliqué hein, quand tout le monde revient dans la rue quand même.
On rouvre les restaurants ou pas?
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez? Charlemagne dit oui, il faut les rouvrir maintenant. Et vous, Mathieu?
Ça nous manque, ça nous manque.
Oui, et vous, Quentin, vous êtes plus...
Oui, non, si.
Oui.
Si on respecte les distances et tout le monde n'est pas, si tout le monde n'est pas agglutiné sur la même table, bien sûr qu'il faut les rouvrir.
Bon, Philippe, lui, est dans le Gers. Bonjour, Philippe.
Oui, bonjour.
Ça va, Philippe? Vous êtes bouché dans le Gers. Philippe,
oui.
Est-ce qu'on ouvre des restaurants?
Bien sûr, moi je suis absolument pour tout. Pour qu'on arrête un peu de psychoter et pour que après qu'on garde chacun fasse attention quoi. Il faut rester responsable.
Mais maintenant il faut qu'on fasse gaffe.
Mais après c'est bien français, tout le monde criait sur les réseaux sociaux les masques, puis maintenant plus personne ne veut le mettre quoi. C'est un truc bien français quoi. C'est un truc incroyable quoi.
Tout le monde rousse pété parce qu'il n'y avait pas de masque et puis dès qu'il fait un peu chaud plus personne ne veut les mettre.
Hein. Voilà quoi. Après faut respecter les distances à 4 mètres quand j'hallucine. Non, distance de mètre, ça suffit. Puis voilà, quoi. Après, il faut rester citoyen, quoi. Il faut être logique, quoi.
Bon.
Et Jean-Jacques, j'ai deux petits messages à passer.
Allez.
J'aimerais que, si vous avez vous le numéro de Bigard, qu'il arrête de dire je parle au nom du peuple. Non, il parle.
Moi, bon, je le connais bien,
ouais,
Jean-Marie.
Ouais, dites-lui qu'il arrête de parler au nom du peuple.
Bon.
Parce qu'il parle du peuple. En fait, il parle des gilets jaunes, et les gilets jaunes, c'est pas le peuple.
Ouais.
D'accord? Il faut bien mettre les choses à leur juste valeur. Et ça, c'est quand même...
Et ensuite, vite, parce qu'il faut que je me tourne vers... Ensuite,
j'aimerais que, pour les restaurateurs qui vont ouvrir, qui ont beaucoup de personnel, au lieu de faire du chômage partiel, ils emploient tout le monde à mi-temps et l'État paye la contrepartie.
Attendez, parce que ça, c'est peut-être une mesure qui se dessine. Merci, Philippe. Merci. J'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure à 8h20 avec Guillaume Paul. Tous les matins, trois histoires, trois images insolites avec Charles Magnin. Nous commençons, Charles, avec les nouvelles mesures sanitaires sur les tournages de cinéma. Oui. Écoutez bien ça.
Un guide de 50 pages de mesures à respecter sur les plateaux de tournage qui reprennent en ce moment peu à peu. Alors, distance physique entre les techniciens, gestes barrières, port du masque, tout ça c'est assez classique, sauf que se pose l'épineuse question des scènes d'amour, les scènes de baiser entre les acteurs. Et alors là, tenez-vous bien, le guide préconise de pratiquer des tests avant les tournages, des prises de température des acteurs, et surtout, le tournage de ces scènes de baiser se fera, je cite, sur la base du volontariat, une formule qui a fait sourire les internautes, hein. Beaucoup sont prêts à se porter volontaires pour les scènes de baiser avec Brad Pitt ou Halle Berry, ou bien à jouer les doublures cascades en matière de bisous, et pour éviter toutes ces contraintes sanitaires, certains ont carrément modifié le scénario de leur film. C'est par exemple le cas d'Olivier Barou qui a supprimé les scènes de foule dans la suite des Tuches, les Tuches 4, qui est actuellement en tournage. Pas question de tourner des scènes avec des dizaines de personnes réunies.
Plus d'un Français sur deux satisfait de son corps après le confinement.
Et oui, Jean-Jacques, sondage IFOP pour Fitness Magazine. Une majorité de Français contente son apparence à la sortie du confinement. C'est particulièrement vrai chez les hommes, les jeunes et les célibataires. Autrement dit, Quentin Vinet est sûrement très fier de son corps en ce moment. On a aussi le détail par région. C'est en Bourgogne-Franche-Comté.
Quentin s'est remis à courir, donc ça va.
Il est fit pour l'été. Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, on est satisfait. À l'inverse, dans les Hauts-de-France et en Occitanie, les sondés reconnaissent qu'il y a encore un peu de boulot. Et oui, de nombreux Français déclarent vouloir intensifier leur pratique sportive en cette période de déconfinement avec un objectif, être le plus séduisant possible en vue de l'été.
Et puis, nous allons terminer avec cette info qui va faire plaisir à Mathieu.
Oui, la bière, oreillette. Monsieur, c'est de chez toi. C'est Sartois, le brasseur Sartois qui avait eu cette idée à profiter du confinement pour aller au bout de son projet. Ça y est, la bière oreillette est disponible. Elle est en bouteille. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Fais vite, hein. 27 kilos de rillettes pour produire 500 litres de bière. Elle s'appelle la copain comme cochon et elle devrait parfaitement se marier avec les autres produits du coin. La glace et les gâteaux oreillettes qui existent
déjà. Copain comme cochon.
Oui, c'est le nom de cette bière.
Mais on sait s'amuser dans la Sarthe.
Mais non, mais je sais.
Et quand on promet quelque chose, on l'a.
Voilà. On n'en doute pas, 32-16. La touche 5, c'est la machine à café, les capsules qui vont avec. Quentin.
Et le mot matin par SMS au 7-32-16.
Mathieu.
À suivre, dans Bourdin Direct, 10 000 Français toujours bloqués au Maroc et d'autres en Algérie, en Tunisie. Témoignage de Claire Beretti ce matin, elle vient de rentrer chez elle en Corse après 2 mois coincée au Maroc. Elle est avec nous juste après le journal de 6h30 sur RMC.
Il est 6h30, juste, c'est l'heure des infos avec Anne-Sophie Balbi. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Le déconfinement, acte 2, réouverture des bars, des restaurants, oral du bac de français, zone maintenue en rouge ou vert. Le Premier ministre annoncera de nouveaux assouplissements cet après-midi. La drogue de retour dans les quartiers autour des écoles, les parents d'élèves de Seine-Saint-Denis s'inquiètent. Les dealers profitent que les jeunes ne soient pas à l'école pour les recruter. Et puis, à la fin de ce journal, direction la Philharmonie de Paris, premier concert depuis la fin du confinement, dans une salle vide, mais diffusée en direct sur Internet. RMC, 6h31. C'est de plus en plus rassurant. Chaque jour, un peu plus, le spectre d'une deuxième vague de l'épidémie s'éloigne. C'est ce que disait hier encore le ministre de la Santé, Olivier Véran, depuis l'Assemblée nationale, même s'il faut rester, bien sûr, vigilant.
Les indicateurs, les cartographies, fruits de l'observation, de la recherche, de l'action des soignants, des chercheurs sur notre territoire montre que nous sommes sur la voie du contrôle de cette épidémie. Mais à l'heure à laquelle je vous parle, il y a encore 2 Français qui, chaque heure, sont admis dans les réanimations de nos hôpitaux. L'épidémie n'est donc pas derrière nous. Et la lutte contre la diffusion de ce virus, elle est aussi importante aujourd'hui qu'elle l'était hier.
Un certain parfum de « en même temps » cher à Emmanuel Macron, restez prudent et en même temps desserrez l'étau puisque c'est aujourd'hui à 17h qu'Edouard Philippe va annoncer la nouvelle phase du déconfinement. Ce que l'on sait déjà, Gladys Lafitte, c'est que la France ne passera pas entièrement en vert.
Non, certains départements d'Île-de-France notamment devraient rester rouges. En revanche, les parcs et jardins pourraient rouvrir sur tout le territoire, y compris en Île-de-France, mais avec le port du masque obligatoire en zone rouge donc, la limite des 100 km pourrait augmenter de façon concentrique. C'est ce qu'avait dit le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. Autres annonces très attendues, la reprise des spectacles dès le mois de juin et la réouverture des cinémas un peu plus tard, à partir du 1er juillet. Côté éducation, le gouvernement souhaite une ouverture élargie des écoles. Au collège, le retour progressif des 4e et des 3e pourrait avoir lieu. Et au niveau des lycées, le gouvernement planche sur une rentrée en priorité dans les lycées professionnels. Enfin, d'après nos informations, l'oral du bac pourrait être annulé, mais rien n'est encore définitivement tranché.
Gladys Lafitte en direct, merci. Réouverture de tous les parcs et jardins, y compris en Île-de-France. Réouverture des bars, des cafés et des restaurants aussi dès mardi avec un mètre de distance entre chaque client. On ne sait pas si ça concernera tout le pays, mais les professionnels se préparent. Illustration dans le Rhône, Florence Donjon.
Dernier coup de peinture pour Yves Cardone, gérant de ce bouchon lyonnais depuis 26 ans. Après plus de 2 mois de fermeture, il n'espère qu'une chose, rouvrir son établissement.
Nous attendons avec impatience justement les ordres, les demandes de l'État. Et on n'aura plus que 5 jours pour les mettre en place. Nous avons d'ores et déjà prévu de distancer l'étape de plus en plus.
En clair, 32 couverts au lieu de 67 habituellement, un manque à gagner pour ce restaurateur qui emploie 3 personnes à temps plein. Il mise donc sur ses 25 couverts en extérieur, d'autant que l'emplacement est offert par la municipalité cette année.
Sur notre terrasse et du beau temps pour pouvoir améliorer nos conditions de travail.
Même espoir pour Didier Chastan, à la tête du Faisan Doré à Villefranche-sur-Saône, mais teinté d'inquiétude, notamment pour ses 11 employés.
33 couverts au lieu de 60, ça veut dire qu'il va falloir laisser des gens en chômage partiel, ce qui n'est pas évident.
Mais l'envie de redémarrer est bien là pour Ludivine Guénaud, responsable de salle.
On a vraiment très très hâte de pouvoir rouvrir et de pouvoir refaire le lien avec notre clientèle.
Une clientèle fidèle et avide de convivialité, le restaurant compte déjà 10 de réservations pour le premier week-end de juin.
Et après ce journal, Didier Désert, restaurateur et propriétaire de l'ambassade d'Auvergne à Paris, sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Pour cette deuxième étape du déconfinement, le gouvernement mise également sur Stop Covid. Le Parlement a donné son feu vert hier soir et l'application devrait être téléchargeable dès ce week-end. Nous vous emmenons aussi en Seine-Saint-Denis ce matin sur RMC. Depuis que l'on peut ressortir de chez soi, le trafic de drogue a repris dans les quartiers et les jeunes qui ne sont pas retournés en cours servent de guetteurs. Des parents d'élèves inquiets ont signé une tribune pour alerter les autorités. Nicolas Roper.
Depuis la fin du confinement, Fabienne l'a bien constaté, les dealers s'activent de nouveau devant l'école de sa fille.
Ça redevient un peu la norme que nous connaissons. C'est-à-dire qu'ils sont de nouveau là. Moi, je n'accepte pas de voir mes enfants slalomer entre deux dealers parce qu'ils ont besoin de prendre l'air. C'est inacceptable.
Avec la fermeture des collèges et des lycées, le profil des guetteurs change, constate cette mère de famille installée depuis 17 ans à Saint-Denis.
Avant, ça allait de 17 à 30 ans. Maintenant, on a des mineurs de 13 ans. Les collèges étant fermés, c'est bien plus pratique de recruter des jeunes. Et en plus, quand ils sont arrêtés par la police, le lendemain, ils sont dans la rue.
Depuis un an, les parents d'élèves sont mobilisés pour faire reculer le trafic de drogue qui leur pollue la vie. Pour autant, Nadine, qui a 2 enfants scolarisés, estime ne pas avoir été suffisamment entendue.
Les solutions qui nous ont été apportées n'étaient pas suffisantes. C'est pas ça qu'on demandait. Le trafic, il était là avant nous. Il sera là après nous. Moi, je veux juste que les jeunes de cette ville, de ce département s'en sortent.
La municipalité de Saint-Denis assure que des moyens supplémentaires ont déjà été déployés et en appelle à l'État.
Air France KLM veut réduire de 40% son offre sur les vols nationaux d'ici à 2021 avec la fermeture de plusieurs liaisons, celles où il y a une alternative ferroviaire à moins de 2h30. Notez par ailleurs que la Commission européenne va débloquer 750 milliards d'euros pour relancer l'économie. La France serait le 4e pays bénéficiaire. Le plaisir, retrouver des musiciens. Ils réinvestissent la Philharmonie de Paris. Depuis hier soir, ils donnent des représentations diffusées en direct à partir de 20h30 sur le site de l'institution et sur Arte Concert. Rémi Inc.
Dès les premières notes, la libération pour les musiciens.
Pour
On avait l'impression de vivre en apnée depuis un petit moment. Et là, on a eu une grande bouffée d'air.
Philippe Aïch, premier violon solo de l'Orchestre de Paris, a passé une soirée mémorable.
Ça a été des frissons, ça a été une grande joie intérieure. C'est irremplaçable de se retrouver sur une scène. Oui, on a eu le sentiment que c'était reparti. Oui.
Un début de retour à la normale. Les instruments se répondent, la musique se mélange au point d'avoir presque la sensation de se toucher entre musiciens.
Il y a un contact qui est immatériel, qui, à mon avis, n'est pas vecteur du moindre virus, sinon l'amour de la musique. Donc, ça marche très, très bien. On a besoin de ça. Sans ça, on meurt.
Le musicien a maintenant une hâte, celle de retrouver son public.
Je pense qu'il y a un vrai besoin de musique, un vrai besoin de retourner au spectacle. On fait partie de la société, on fait partie d'une économie aussi. Donc, on a besoin de reprendre.
Un nouveau concert aura lieu ce soir à la Philharmonie. Toujours pas de public, mais cette liberté retrouvée et cet espoir de jour meilleur.
Mathieu, c'est à Clairefontaine. J'attendais que la musique. Comme
mais ça fait du bien.
Il faut.
Pour les courses à Clairefontaine, en musique, le pronostic de la Dream Team des courses RMC, favori numéro 5, Midnight Shine, outsider numéro 10, Écolo, le
bien,
5 et le 10.
Nous allons parler des restaurants avec notre invité Didier Désert dans un instant. Mais je voudrais ne pas oublier celles et ceux qui sont toujours bloqués au Maroc. Oui, des Français qui sont là-bas depuis maintenant 2 mois, pour certains 2 mois et demi. Claire Beretti, bonjour.
Bonjour.
Merci. Vous préférez dire en Corse que votre village, allez-y.
Riba, sur la commune de Sangavino di Carbini.
Bon, bravo. Parce que ça, j'aurais été incapable. Bon, dites-moi, Claire, vous êtes rentrée quand du Maroc?
Récemment, lundi, je suis partie vendredi matin, donc j'avais pas de vol pour la Corse avant le 25. Ouais. Donc je suis rentrée en Corse le lundi 25, voilà.
Et vous êtes restée bloquée combien de temps au Maroc?
J'étais partie en vacances et pour acheter un petit appartement à Marrakech. Et mon mari est parti le 13 mars pour voter, bien sûr, physiquement, oui, comme il voulait.
Oui.
Et donc, ça fait depuis le 13 février que je suis à Marrakech.
Vous étiez bloqué à Marrakech. Impossible de rentrer.
Au 13 mars, mon mari est parti. Une heure après, on fermait les aéroports, donc j'étais bloqué. Oui.
Et vous êtes resté bloqué depuis le 13 mars jusqu'à vendredi dernier?
Bien sûr. En attente du téléphone qui ne sonnait jamais, avec le téléphone tout le temps en allant dans la douche. Vous êtes partout avec le téléphone et c'est une angoisse pour tout le monde là-bas. Il y a quand même 4000 personnes qui sont encore là-bas, peut-être 5000, je ne sais pas.
Encore en là-bas
cas, oui.
Mais pratiquement plus de vols, parce qu'on nous a dit que les Français étaient rapatriés. Moi, je comprends pas.
Alors,
très
attention,
bien.
Faut faire la différence, monsieur Bondin. Il n'y a aucun vol, zéro vol, d'accord, de Marrakech, oui, de Casablanca, mais il y a des rapatriements par, oui, bien sûr, le ministère de l'Intérieur et des Affaires, ouais, étrangères, d'accord.
Oui. Oui.
D'ailleurs, je les ai appelés parce qu'au dernier moment, je n'en pouvais plus, je ne savais plus à quel saint me vouer. Pour la bonne raison que, bien sûr, au début, on me dit « Mais va au consulat de France ». Oui, mais allez-y, monsieur Bourdin, c'est fermé. Oui. Il y a les flics marocains, français, il y a un interphone, et on vous répond qu'il faut passer par Internet. Donc là commence la galère.
Oui, j'imagine.
Et 2 lignes de téléphone, 200 appels par jour. Je les ai eus 3 fois au téléphone en 2 mois et demi. Voilà.
Mais comment avez-vous fait pour vivre là-bas au Maroc?
Alors, moi, j'avais peut-être un peu plus de privilèges que les autres. C'est que je venais d'être dans un appartement que je n'ai pas signé parce que j'avais, c'était tout fermé. Les notaires étaient confinés aussi.
Ouais.
Donc, j'ai eu la chance d'avoir un propriétaire qui m'a laissé dans l'appartement, qui ne
sympa.
M'appartenait pas.
Il est sympa, dites-moi.
Non, il faut remercier.
Est-ce que vous allez l'acheter, cet appartement?
Comment?
Vous avez pu le tester maintenant? Est-ce que vous allez l'acheter?
J'ai bien testé. J'ai pu acheter une petite table de pliants, oui, pour mettre sur mon petit balcon.
Oui.
Voilà, et j'étais ravie.
Et vous allez l'acheter ou pas?
Oui, c'est fait parce que je suis très déterminée et que je veillais toujours les alertes, quand est-ce qu'ils ouvraient, si,
oui,
on pouvait. Voilà.
Oui. Vous avez finalement été rapatrié vendredi dernier par un vol spécial d'Air France entre Marrakech et Roissy.
Voilà, donc je vous explique ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de témoigner, qui ont été par exemple non prioritaires parce qu'ils n'avaient pas, ils avaient leur attestation d'employeur, qui pouvait peut-être les mettre dehors, mais ça, on dirait que c'était pas prioritaire. Après, il y avait des gens qui étaient complètement isolés comme moi, sans réponse au téléphone du consulat. Et puis alors, quelque chose qui a été dramatique, c'est qu'on vous envoie des formulaires du consulat et on vous dit de remplir le formulaire avant 22h, alors qu'il est 18h30. Et ensuite, après le formulaire, vous avez ces espèces de documents qu'il faut réduire en IPEJ. Et ça, évidemment, il y a au moins 40% des gens qui ne savent pas le faire.
Oui, bah oui, bien sûr. Bien
donc
sûr.
Vous êtes en crise de nerfs, quoi. Puis voilà, vous ne passez pas le truc et vous n'êtes pas appelé. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Ben enfin, parce que je résume, je sais que j'ai pas beaucoup de temps sur votre antenne.
Ça c'est vrai, Claire.
J'étais directrice de Radio Golf jusqu'en 98.
Donc vous
radio,
savez, donc vous savez, ouais. Vous connaissez la radio.
Ouais. Voilà, je connais bien la radio. Oui. Donc, si vous voulez, c'est vrai que Air France vous appelle. Alors Air France vous appelle et là, moi je suis au feu rouge, je ne sais plus quoi faire. Ça fait deux mois et demi que j'attends l'appel et voilà.
Bon.
Et Air France vous appelle et vous fait payer. Parce qu'en fait, c'est un rapatriement...
Allez-y, vite, Claire, parce que là, je suis vraiment, vraiment à la bourre.
D'accord. Un rapatriement commercialisé. Et on vous fait payer 280€. Il y en a qui n'ont pas été remboursés parce qu'il y en a qui n'ont pas été pris. Et voilà, et vous arrivez à Roissy où tout le monde applaudit dans l'avion parce que quand même, on remercie ceux qui nous ont rapatriés.
Merci Claire.
Voilà.
Merci et merci pour votre sourire venu de Corse.
Ben
6h43, vous êtes sur RMC. Le Quai d'Orsay promet de redoubler d'efforts pour trouver des solutions de retour à tous les Français bloqués.
Alors justement, depuis mi-mars, 30 000 Français sont revenus du Maroc, 18 000 de Tunisie et 8 000 d'Algérie. C'est ce que nous dit le Quai d'Orsay. Dans les 15 prochains jours, plus de 15 000 solutions de rapatriement seront proposées. Parlant du Maroc spécifiquement, on va passer de 2 à 8 avions par semaine. Une dizaine de liaisons maritimes seront organisées dans les 15 prochains jours. Il y en a déjà eu vers Sète et vers Marseille ces deux derniers jours.
Didier Désert, maître restaurateur, propriétaire de l'ambassade d'Auvergne à Paris, est avec nous dans deux minutes.
RMC.
RMC, 6h-9h.
Bourdin Direct.
Allez, il est 6h46. Didier Désert est donc maître restaurateur et propriétaire de l'ambassade d'Auvergne à Paris. Bonjour. Vous avez une centaine de places,
une
centaine de couverts. Bien. Vous voulez reprendre, évidemment, le plus vite possible. Vous attendez avec impatience les annonces du Premier ministre.
Dans la profession, nous attendons tous les annonces d'Edouard Philippe. On a quelques intuitions. On sait que zone verte, c'est à peu près acquis que ça ouvrira le 2. Sur les zones rouges ou encore rouges, on ne sait pas trop. On est évidemment pressé d'ouvrir, mais on est très attentif aux conditions dans lesquels on va ouvrir, parce que c'est ça qui est important. Ouvrir pour ouvrir, évidemment, on a envie de faire notre métier, mais dans quelles conditions?
Alors, vous avez déjà organisé, pensé aux conditions d'accueil des clients.
Alors, on a pensé dans la limite de ce qu'on a eu comme information, puisque le protocole sanitaire, il sera communiqué cet après-midi. On sait que ça va être compliqué. C'est-à-dire que nos restaurants sont des lieux de vie. Nos restaurants sont des lieux de partage, de convivialité. Les serveurs vont être masqués. Les clients devront être masqués à l'entrée du restaurant et pendant leur déplacement. Les tables vont être espacées. Donc toute cette capacité à communiquer, à échanger avec les uns les autres, elle va disparaître. Et puis ensuite, ça aura quelques répercussions directes sur la façon même de travailler. Le fait de devoir tout désinfecter, par exemple, on va plus mettre de salière ou de poivrière sur les tables, parce que ça serait trop de boulot. Donc on va les saler à la demande, poivrer à la demande. Servir l'aligot comme on le fait à l'ambassade d'Auvergne, où on vient montrer l'aligot à toutes les tables. On va peut-être s'abstenir d'aller à chaque table montrer l'aligot, parce que ça va créer une...
Ah, c'est bon, l'aligot, vous me donnez... qu'est-ce que c'est? Vous savez ce que c'est que l'aligot? Non?
J'en ai mangé un, mais il y a longtemps, pas le dernier, c'était au moins deux ans.
C'est bon, l'aligot, c'est bon.
Donc, on va devoir s'adapter, ça va être compliqué, et puis au-delà de ça, c'est vraiment les conditions économiques dans lesquelles on va démarrer, qui sont très inquiétantes pour nous tous, puisqu'on ne sait pas si on sera à l'équilibre.
Bien sûr. Alors, les conditions économiques, les assureurs, vous savez qu'ici, on s'est beaucoup battu. Et on se bat beaucoup.
Et nous vous en sommes reconnaissants.
Merci, Didier Désert. On se bat beaucoup parce que je veux que les assureurs, pas que les restaurateurs d'ailleurs, les commerçants en général, que les assureurs assument, leurs responsabilités. Alors, où est-ce que vous en êtes, vous aussi?
Alors, dans les discussions avec les assureurs...
On a beaucoup parlé de Stéphane Manigold, mais il n'est pas seul.
On est tous concernés.
Vous êtes
avec
tous concernés.
Contrats différents les uns des autres. Voilà. Des contrats qui sont discutables d'autres moins. Ce qu'on attend, c'est que les assureurs prennent une position de principe, non pas contractuelle, mais presque philosophique, dans un état de crise qui est inégalé, pour nous aider et nous aider à reconstituer nos trésoreries, à minima, pour pouvoir supporter les mois à venir où on ne travaillera pas comme avant. Donc, on a besoin des assureurs. assureurs, on a besoin aussi que des grands opérateurs comme Orange, EDF, fassent leur part d'effort. Ils sont d'un silence aussi assourdissant que les assureurs jusqu'à présent.
C'est vrai.
Et puis ensuite, on a un vrai sujet.
Mais les assureurs, pas tous. Parce que certains ont compris qu'il fallait réagir.
Certains ont compris
qu'il y avait un enjeu d'image. Les assureurs banquiers.
Mais il y a un vrai enjeu d'image. Que voudra dire le mot assuré demain si les assureurs ne sont pas au rendez-vous? Ils perdent leur âme.
Vous avez raison. Et c'est comme le restaurateur qui sert un aligot qui vient d'Alsace, quoi.
Exactement.
Bon, alors allez-y, qu'est-ce que vous vouliez?
Alors, on demande
les loyers aussi.
Alors, on demande que sur les loyers, l'État nous aide. Il y a eu un médiateur de nommé, mais on n'a rien vu venir. Que l'État nous aide à trouver une base de discussion avec les bailleurs pour que l'on puisse d'abord effacer les loyers sur la période où on n'a pas travaillé. Nous, on a loué nos commerces pour pouvoir avoir une activité. Cette activité, oui, elle était impossible. Et donc, je comprends que les bailleurs privés, ça soit difficile pour eux, mais c'est aussi difficile pour nous. Et donc, il faut que l'État nous aide à trouver un terrain d'entente qui nous permette à la fois d'effacer ces 3 mois d'inactivité et puis ensuite d'indexer pendant une période donnée nos loyers sur la base de notre chiffre d'affaires. C'est la seule façon qui permettra aux locataires de continuer à supporter cette charge du loyer et aux bailleurs de continuer à avoir des locataires. Parce que si on fait tous faillite, bah nos bailleurs, à un moment donné, d'abord, ils recouvreront pas les loyers, et puis ensuite, ils vont rester avec des commerces fermés pendant quelques temps, avant de retrouver quelqu'un qui le prendra pour moins cher. Donc on est tous gagnants-gagnants, il faut juste que l'État nous aide à organiser cette discussion avec les bailleurs, comme il devrait le faire avec les assureurs, et nous aider là aussi à organiser les discussions.
Didier Désert, Sandra est avec nous. Bonjour Sandra.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour ma chère Sandra. Alors vous portez toujours votre masque et vos gants?
Ah oui, toujours.
Et si les restaurants rouvrent, vous n'irez pas?
Non, franchement, je veux voir avant comment ça va se passer, parce que j'aurais pas trop confiance, bien sûr.
Didier Désert.
Oui,
vous avez fait un petit sondage. Ça
oui, c'est un peu ce qui nous inquiète à la fois quand on interroge nos clients, chacun dans nos maisons ou dans nos amis. Globalement, un Français sur deux est impatient de retourner au restaurant, de retrouver cette ambiance festive. Et puis un Français sur deux attend, parce qu'on a tellement dramatisé, effectivement, et certainement à juste raison, cette crise, que les gens sont attentifs et vont voir ce qui va se passer. Et on est dans un paradoxe, parce que ceux qui ont peur vont vouloir le maximum de mesures sanitaires dans nos restaurants, et ceux qui ont envie d'aller au restaurant aujourd'hui n'ont peut-être pas envie de porter un masque pour aller aux toilettes.
Bien sûr. Merci Didier Désert. Merci et bonne chance pour la reprise prochaine. Mathieu, qu'allons-nous faire avec Anthony Morel?
On va parler de la folie des vélos. Avec Anthony, des vélos toujours plus beaux, toujours plus techno. Anthony nous a trouvé ce matin des vélos électriques connectés et même gonflables. C'est déjà demain dans une minute sur RMC.
RMC, Bourbon Direct.
Cette deuxième phase du déconfinement, qu'en attendez-vous? Frédéric nous dit, moi j'ai hâte que la barrière des 100 km disparaisse, ça va faire presque 5 mois que je n'ai pas vu mes parents, nous dit Frédéric. Tout à l'heure, je vous disais que Nathalie, justement, attend la réouverture des restaurants. À condition de ne pas supporter le stress, de ne pas être trop loin des autres, ce serait pas supportable pour moi, nous écrit Nathalie. Il y a cette idée de Patricia qui est défendue aussi dans plusieurs villes, étendre les terrasses sur les places de parking. Excellente idée pour Patricia. Il faut continuer, obliger les employeurs à conserver le télétravail. Comme ça, il y aura moins de voitures, donc plus de place pour étendre le dispositif des terrasses plus grandes. Il faut être cohérent. Fatia nous dit qu'elle a hâte aussi que les restos rouvrent. Un été sans terrasse, ce n'est pas un été. Oui, au terrasse supplémentaire sur les places de parking, c'est une excellente idée. Il faut faire ça partout et pas qu'en ville. Au contraire, Damien, qui est commerçant dans le centre-ville de Rennes, s'interroge. Est-ce que les gens viendront toujours dans mon commerce s'ils n'ont plus de place pour se garer?
RMC au 732-16.
75 centimes par envoi plus prix du SMS. RMC.
C'est déjà demain avec Anthony Morel. Où est-il passé? Qui arrive à vélo?
Bonjour, bonjour.
Regardez-le.
Ça réveille.
Vélo, attention, parce que c'est un vélo électrique. Trop d'élan.
J'ai réglé l'assistance. Normalement, ça devrait aller. Mais effectivement. Mais ça va, on a la place sur ce plateau. C'est pas mal.
Oui, ce plateau est grand. Là, on peut y aller.
Il est magnifique, ce vélo.
Il est pas mal quand même.
Il est magnifique.
Bon, je vais m'arrêter quand même à un moment. Oui, juste pour vous le montrer, parce que
vous nous donnez le tournis.
Oui, c'est pas le but. Non, puis pour le montrer en plein quand même ce vélo, alors que je vais décrire pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il est un petit peu particulier. C'est un vélo électrique, c'est la grande tendance du moment. Énorme engouement autour des vélos électriques en ce moment. Oui. C'est assez logique, hein. Mais un vélo électrique qui ressemble pas du tout à un vélo électrique, en fait. C'est-à-dire que la batterie, où est-ce qu'elle est, par exemple? Elle est cachée. Oui. Elle est cachée, en fait, à l'intérieur du châssis, donc on ne la voit pas. On recharge son vélo, il y a une petite prise en dessous et c'est tout. Mais sinon, on ne la voit pas. Vous avez sur le cadre un écran. Alors, je sais pas si on va bien le voir, mais c'est des diodes électroluminescentes qui montrent la batterie, le niveau de la batterie, la vitesse à laquelle on roule, etc. Donc, c'est des vélos qui sont à la fois électriques, mais qui sont aussi de plus en plus électroniques.
Sur le cadre, non, vous imaginez?
Sur le cadre. et qui sont connectés. Alors c'est ça le truc, c'est que en gros, via une application, je vais pouvoir tout régler. Je vais pouvoir régler le niveau d'assistance électrique. Je vais pouvoir allumer et éteindre les lumières. Je vais pouvoir, voilà, je les ai éteintes. Normalement, elles vont s'éteindre dans quelques petites secondes. Voilà, hop, et je vais les rallumer. Et vous allez aussi pouvoir avoir un antivol intégré. C'est-à-dire que si je m'éloigne du vélo et qu'on essaye de me le voler, eh bien, la roue va se bloquer et il y a une alarme.
Alors, il paraît, c'est un vélo Van Moof. Je donne la marque, c'est hollandais. Hein,
c'est hollandais, exactement. C'est hollandais. C'est une marque hollandaise.
Sur les rois du vélo. Hein.
Mais, bah, c'est vrai. Mais il y a de plus en plus de concurrence sur ces vélos high-tech, ces vélos qui sont de plus en plus connectés.
Que ce vélo, si on vous le vole, Van Moof s'engage à vous le retrouver.
Oui, alors ils ont fait un truc un peu spécial, c'est qu'effectivement, quand on vous le vole, vous avez un GPS intégré donc pour suivre le vélo, mais c'est pas vous qui allez aller le rechercher.
Oui,
évidemment,
ça,
c'est dangereux.
Ça, j'imagine.
Donc vous avez des espèces d'équipes qui travaillent avec la police chez Van Moof pour aller chercher le vélo et ils vous en prêtent un autre en attendant, etc. Donc c'est assez malin, franchement.
Mais dites-moi, il doit coûter une fortune, votre vélo.
Ça coûte
là.
Pas. Alors, 2000 euros, donc 2000 euros, c'est une somme, on est d'accord.
Faut savoir
il y a des aides. Alors il y a les subventions en région Île-de-France, par exemple, c'est 500 euros. Faut savoir que le prix moyen d'un vélo électrique en France, c'est autour de 1700 euros. Donc on n'est pas beaucoup au-dessus. Oui. Alors, c'est pas pour faire la pub de celui-là en particulier. Faut savoir qu'il y a vraiment une offre de plus en plus importante sur ces vélos connectés. Il y a un vélo français là qui va sortir dans quelques mois, qui s'appelle Angel, hein, qui a pas mal fait parler de lui. Bon, j'ai essayé de me le faire prêter. Là, il les prête pas pour l'instant. Donc je vous montrerai une autre fois. C'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, ces vélos qui sont de plus en plus high-tech, de plus en plus connectés.
Il paraît que certains valent 15 000 euros ?
Ça monte jusqu'à 15 000 euros. Il y a un modèle de VTT connecté absolument dingue. Mais je vous le présenterai une autre fois, celui-là, si vous voulez. Mais complètement fou, 15 000 euros. Alors, avec des matériaux absolument incroyables, etc. Mais oui, effectivement, les prix des vélos électriques, ça peut monter très, très haut. Hein. Donc,
c'est des mobilettes à ce prix-là.
C'est presque des mobilettes, ouais. Mais
existe-t-il, moi j'avais vu ça, mais c'est vrai ou pas, un vélo électrique gonflable?
Ah ben je vous confirme, c'est un projet de l'université de Tokyo, c'est incroyable, vous allez le voir pour ceux qui nous regardent.
Un vélo électrique gonflable.
Alors c'est comme, ça se présente sous la forme, c'est comme un matelas gonflable, hein, c'est la même chose, vous mettez ça dans votre sac à dos, et lorsque vous en avez besoin pour rentrer à la maison, bah, vous soufflez dedans, ou alors vous utilisez un petit moteur pour le gonfler, et pfff, ça va prendre vaguement la forme d'un vélo. Vous avez une selle, vous avez un guidon et vous allez monter dessus. Et il y a un petit moteur électrique à l'intérieur.
Oui.
Et vous vous baladez avec ça.
Mathieu, vous voyez sur
C'est un vélo, c'est vaguement un vélo.
Oui,
vraiment, le problème, si vous voulez, c'est que là, c'est plus simplement le pneu qui crève. C'est l'ensemble du vélo qui crève.
Ah oui, ça, c'est embêtant.
Ça risque de poser quelques
problèmes. C'est bien, ça peut faire matelas en même temps.
Mais voilà, pour une soirée, vous finissez votre soirée, vous dormez sur le matelas et puis vous rentrez à la maison. J'aime bien le concept. Voilà.
Bon, merci Anthony Morel qui a toujours des trouvailles. Il est 6h59 et Vincent qui est là. Bonjour Vincent.
Bonjour Jean-Jacques.
Vous êtes en Indre-et-Loire, Langers, hein Vincent?
C'est ça Jean-Jacques.
Vous écoutez la radio, vous regardez la télé le matin?
J'écoute toujours la radio.
Vous écoutez toujours la radio. Ben, vous avez bien fait d'écouter ce matin parce que vous avez gagné votre machine à café et les capsules qui vont avec, mon cher Vincent.
Merci beaucoup, Jean-Jacques.
Et j'en suis très, très, très heureux. Passez une très belle journée.
Bonne journée à vous aussi. Puis merci à RMC pour la qualité de ces émissions.
Ben, merci, Vincent. Ben, merci, ça me fait plaisir, vraiment, Vincent, vraiment. Il est quelle heure ? Il est 6h59.